Depuis plus de deux ans, des caméras de surveillance filment tout un chacun dans les rues de Brest.
La vidéosurveillance algorithmique en France va être généralisée.
À Nice, par exemple, un logiciel de reconnaissance faciale sur la voie publique a été testé pendant le carnaval.
Ça ne devait pas durer, mais ça va sans doute être pérennisé. L'emploi de la vidéosurveillance algorithmique. Le préfet de police de Paris, d'ailleurs, n'avait pas caché qu'il voulait en faire un outil désormais courant.
L'utilisation de la reconnaissance faciale.
Michel Barnier a également parlé de généralisation. L'utilisation des caméras dites intelligentes va être développée.
30% des interpellations, 30% des 30% sont réalisées grâce à la vidéoprotection.
Gérald Darmanin se rend à Marseille.
Quasiment toutes les affaires d'agression sont résolues grâce à la caméra.
Le ministère de l'Intérieur assurait jusque-là que l'expérimentation n'irait pas au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais l'idée à l'étude désormais est de passer du temporaire au permanent.
Des caméras comme celle-ci, il y en a 35 implantées dans le centre et dans les principaux lieux de vie de la commune.
Grâce à la vidéoprotection.
Les bienfaits de la vidéoprotection, quel que soit le chiffre.
Quand vous arrivez à confondre l'auteur d'un crime grâce à la vidéoprotection.
Pour que les policiers soient plus efficaces.
Ils n'avaient aucune preuve de l'efficacité des dispositifs, mais en gros, si on continue à en acheter, c'est bien que ça marche.
Bienvenue les amis, ce soir on fait la fête sur ce qui chouette, chouette.
Tout va légitimer cette évolution sans aucun débat public.
Chers amis,
j'ai connu la ferveur de ce stade-là où tout le monde était debout, il y avait autant de monde, voire plus de monde que maintenant.
Merguez, cacahuètes, pralines.
Quand j'étais en primaire, on nous interdisait de parler notre langue.
Il ne faut pas se décourager, il faut aussi agir parce qu'on trouve que des choses sont intolérables.
T'es sérieuse, hein,
Et après, on a eu une petite douche de lacrymo pour leur rafraîchissement.
Goût poivre.
On n'ouvre pas une usine en France pour enfermer une ailleurs.
On attend goût curry pour les végés.
Du pain et des parpaings,
une émission d'actu des luttes.
Bonjour et bienvenue dans la 30e émission de Du pain et des parpaings, une émission d'actu et lutte en Bretagne et ailleurs. Alors aujourd'hui, il y a du monde derrière les micros, mais aussi devant, parce qu'on enregistre cette émission en public, Place Guérin à Brest. Bonjour à tous et à toutes.
Comme plusieurs quartiers brestois, celui de Guérin s'est vu intégrer en 2023 dans un tout nouveau réseau de vidéosurveillance déployé au nom de la lutte anti-délinquance. Sous l'impulsion de la mairie, de la préfecture de l'époque, 80 caméras ont été installées essentiellement dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers de Pontanezen et Quéréderne.
Géré par la préfecture du Finistère et la sous-préfecture, en accord avec la municipalité brestoise, le dispositif de caméra a fait l'objet en juillet 2025 d'une mise en demeure de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Celle-ci donnait un mois au ministère de l'Intérieur pour, je cite, cesser de mettre en œuvre le système de vidéoprotection déployé sur la commune de Brest.
En effet, elle estimait que le dispositif avait été mis en place dans des conditions irrégulières. Non seulement le réseau de caméras avait été implanté sans justification suffisante, mais aussi sans cadre juridique, ni contrôle démocratique.
Une situation dénoncée dès 2023 par la Ligue des droits de l'homme à Brest, qui tente d'alerter sur les risques liés à ces technologies. D'autant que ces caméras sont équipées du logiciel Rapid Review de la société Israel Briefcam, dont certaines fonctionnalités d'analyse algorithmique et de reconnaissance faciale sont toujours interdites en France.
Alors voilà pour le contexte local, qui n'est pas sans faire écho à ce qui se trame ailleurs, en France et à travers le monde. Face à l'essor du business et de la sécurité, et des smart cities, des voix s'élèvent pour en dénoncer l'opacité et la banalisation.
Et pour comprendre plus précisément ce qui se cache derrière ces caméras, on accueille aujourd'hui quatre invités.
Élie,
Val,
Noémie
et Pierre.
Bienvenue.
Et pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter chacun, chacune, pour qu'on situe un peu mieux d'où vous parlez ?
Ben, Pierre, je suis président de l'ALDH Brest Métropole.
Moi, du coup, Noémie, je suis de l'association La Quadrature du Net. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association plutôt au niveau national qui s'intéresse aux questions de droit et de liberté dans l'environnement numérique et donc beaucoup aux questions de surveillance.
Val, du coup, je milite au collectif Technopolis Paris-Banlieue, qui est un collectif qui s'intéresse plus ou moins au même sujet, mais au niveau local à Paris.
Et du coup, moi, je fais partie d'un collectif d'habitants et d'habitantes du quartier qui s'est créé il y a à peu près un an pour travailler sur ces questions-là. Bon, aujourd'hui, on n'est plus que trois, mais il y a eu d'autres personnes qui ont contribué à d'autres moments.
Moi, au début, la caméra, je croyais que c'était un poteau, quoi, comme c'est tout blanc. Enfin, il y a un gros rond noir, je pense que c'est ça qui filme les gens.
Est-ce que les policiers, ils voient direct ce qui a été fait ils voient des jours après?
Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi on dirait qu'elle a une casquette au-dessus de la tête, en dessous de son espèce de gros œil noir qui voit tout.
Je me demande quand est-ce qu'il regarde ou si c'est vraiment enregistré, parce que, comme il disait tout à l'heure, quelqu'un s'était fait voler son vélo, mais ils n'ont jamais voulu lui montrer les images. Donc, je ne sais pas si c'est enregistré ou si juste, sur le moment, ça se voit passer. Ou...
Je me demande qui les regarde. Les vidéos des... Pas. Oui. Si ça va à la police ou... Enfin, je sais pas où, d'autres que chez la police, mais...
Avant, on n'en avait pas vraiment entendu parler, avant qu'ils la mettent. Du coup, on peut pas vraiment savoir quelle est l'utilité de la caméra.
Bah, pourquoi est-ce qu'elle est là, quoi?
La chance que la caméra place carin, elle sert surtout à surveiller plutôt que protéger. Puisqu'il n'y a pas vraiment de danger, place Guérin.
Bah, protéger, la protéger de qui, de quoi?
C'est un peu impressionnant de savoir que ça, cette espèce d'œil noir voit tout.
Et surveiller qui? Moi, je pense que ça atteint un peu à la vie privée de beaucoup de personnes. Et puis aussi, les gens qui voulaient surveiller de base, je pense que c'est pas la vie de quartier, mais du coup, c'est qui, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font pour que ils pensent qu'ils aient besoin d'être surveillés.
Je trouve que c'est moins bien, du coup, parce que comme on a la caméra juste en face du parc, bah, du coup, bah, on a moins envie de jouer, de s'amuser, parce que bah, y a la caméra, et qu'on se dit peut-être qu'ils vont mal comprendre ce qu'on fait et tout, et que du coup, bah, on va finir en prison, alors que normalement, c'est pas possible, mais...
Alors, on vient d'entendre des enfants et des ados qui connaissent bien la place pour y aller à l'école, au parc, à la bibliothèque. Et toi, justement, Élie, tu es une habitante du quartier et tu es parmi d'autres habitants à l'initiative de cette journée de réflexion sur la vidéosurveillance. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à vous mobiliser sur cette question ?
Ouais, bah en fait, on s'est saisi de cette question un petit peu après avoir vu dans la presse ce qui s'est passé à Moirans. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait quand même une occasion pour relancer une mobilisation sur ce sujet. Et on voyait aussi pas mal comment le thème de la sécurité, il allait s'imposer là dans les municipales avec deux axes, la police municipale et la vidéosurveillance. Et du coup, on s'est dit que c'était un bon timing pour retravailler ces questions. Ce premier événement, là, il représente en fait l'aboutissement de plusieurs mois de travail à lire, à documenter la situation brestoise, à se former sur le sujet. Et on est aussi rentré en contact, du coup, avec la Quadrature du Net, Technopolis, des organisations locales, bah, dont la LDH, pour faire du partage d'infos, essayer de lancer un peu une dynamique sur Brest. Et en fait, pour nous, la situation brestoise, elle est assez, enfin, c'est un peu un cas d'école de la manière dont l'État va pousser les collectivités locales à installer des caméras. Et on voit bien ici comment, alors que ça faisait pas partie du programme de la majorité en 2020, Les élus, ils ont adopté à l'unanimité, tous bords politiques confondus, la convention de sécurité 2021-2026 entre du coup la ville et l'État, et en plus en laissant la main du coup à la préfecture sur le dispositif, quoi. Et on voyait aussi comment, du côté de la préf, il y avait un enjeu politique dans ce moment de l'installation de la caméra sur la place Guérin, puisque ça s'inscrivait aussi dans ce que le sous-préfet a nommé une lutte contre les mouvements d'ultra-gauche qui se radicalisent et s'organisent à place Guérin, et dans la même temporalité que l'évacuation de la ZAD de l'avenir ou la suppression de subventions à plusieurs associations via le contrat d'engagement républicain. Donc ça s'inscrivait vraiment dans une temporalité un peu plus large. Ce qui nous alertait aussi, et que la LDH a déjà pointé à de nombreuses reprises, mais c'est le manque de transparence sur le dispositif. En fait, on a 15 sites d'implantation avec des caméras qui utilisent de la VSA, qui sont gérées en direct par la préfecture. Donc sur ce point-là, en fait, avant que le document de la CNIL ne fuite dans Mediapart, on n'avait pas vraiment de... on n'arrivait pas vraiment à savoir qui traitait les images, où elles arrivaient physiquement, comment elles étaient exploitées, etc. On a eu un petit peu d'infos grâce aux documents de la CNIL, mais voilà, ça reste quand même un peu flou. Et ce qui nous semblait aussi important de rappeler, c'est que la vidéosurveillance, c'est un business, en fait, c'est un marché économique. Là, il y a une enquête France Info qui est sortie le 24 novembre, qui cite Patrick Haas, donc qui est directeur du média spécialisé en toute sécurité, et qui donne, qui nous annonce un chiffre d'affaires pour les entreprises de la vidéosurveillance en augmentation de près de 8% en 2024 et qui atteint 2,2 milliards en France aujourd'hui, quoi. Et du coup, ça, c'est un peu, la N2V, qui est du coup le lobby de la vidéosurveillance en France, leur événement, leur gros événement, un jour pour cinq ans, il arrive au mois de juin, là, juste après les municipales. Donc, on voit bien que leur enjeu, c'est de vendre des systèmes aux maires fraîchement élus. Et donc, comme l'explique très bien la Quadrature du Net, il y a des intérêts autoritaires, économiques, politiques, électoralistes qui viennent là s'articuler. Et voilà. Donc, nous, ça nous semblait important de remettre ça un peu dans le débat public, quoi.
Tu disais que la CNIL, ça avait été révélé par Mediapart, ce rapport, parce qu'il n'y a pas, on n'y a pas accès ?
Non.
Ah, Pierre, peut-être tu veux répondre ?
Non, on n'a pas accès aux documents de la CNIL. Il est considéré comme confidentiel. Si je peux reprendre l'histoire, effectivement, l'histoire, ça commence avec la convention de sécurité où la mairie s'est fait tordre le bras. En gros, ça a été caméra de surveillance contre des policiers supplémentaires. Ça a été le premier point, donc effectivement, novembre 21. Nous, on a été alertés quand la Quadrature du Net, soutenu par la LDH, syndicat des avocats de France et syndicat de la magistrature, a déposé plainte auprès du tribunal administratif de Grenoble par rapport à la commune de Moiran. Donc l'avis a été rendu fin janvier de cette année. Donc sur l'utilisation d'un logiciel algorithmique par la mairie de Moiran. On n'était pas dans la même situation sur Brest parce que c'est pas la mairie qui gérait les images. Du coup, on a fait un courrier mi-avril au préfet, au sous-préfet, au procureur et copie à la mairie. Pas de réponse. On a on a relancé un deuxième courrier mi-mai. Toujours pas de réponse, aucune réponse sur les questions que l'on posait, c'est-à-dire où étaient implantées les caméras, comment elles fonctionnaient, qui c'est qui regardait les images, combien de temps elles étaient conservées, etc., etc. Donc des questions très pratiques, aucune réponse. Devant l'absence de réponse, on a fait une conférence de presse ici, Place Guérin, en juin. La seule réponse qu'il y a eu, c'est parce qu'un journaliste d'ici, Brézizel, enfin je sais pas si ça s'appelait ici à l'époque, interroge le sous-préfet en gros nous dit il n'y a rien à voir, la CNIL est passée à trouver ça très bien, la commission départementale sur la vidéosurveillance qui est présidée par un magistrat a trouvé ça très bien, donc il n'y a rien à voir, circuler. L'ironie quand même, c'est que un mois après, on apprend que la CNIL retoque complètement le dispositif. Donc le sous-préfet, au minimum, a raconté des choses fausses, pour pas dire des mensonges, aux journalistes qu'il avait interrogés. La suite n'est pas plus réjouissante, puisque ce qu'on aurait aimé, c'est que la municipalité ne récupère pas début août l'ensemble du dispositif. Il nous semblait que ça aurait mérité un débat au moins démocratique sur la question de la vidéosurveillance, puisque, comme il a été rappelé, quand elle a été élue, elle s'était opposée à la vidéosurveillance.
Ah, pourquoi caméra sans répit, et puis tu du haut de ton poteau, pourquoi me fliques-tu? Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a plein le cul. Ah, pourquoi caméra sans répit, et puis tu du haut de ton poteau, pourquoi me fliques-tu? Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a plein le cul. Ah, pourquoi caméra sans répit, et puis tu du haut de ton poteau, pourquoi me fliques-tu? Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a plein le cul.
Noémie, à la Quadrature du Net, vous faites un gros travail de veille et de sensibilisation sur les questions de la vidéosurveillance et notamment sur le développement de la vidéosurveillance algorithmique, la VSA. C'est même vous qui avez imposé l'expression VSA dans le débat public. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, nous expliquer ce qu'est la VSA et quels sont les risques associés ?
Alors, la VSA, donc, c'est l'acronyme de vidéosurveillance algorithmique. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de mettre une couche algorithmique, un logiciel, sur les images de vidéosurveillance pour les décortiquer. Donc, en fait, l'algorithme va classifier, analyser, identifier ce qui se passe sur une image. Et c'est donc basé sur de l'intelligence artificielle. Donc, on va apprendre à l'algorithme à reconnaître certaines choses. Ça, c'est pour le côté un peu technique. Ensuite, politiquement, comment est-ce que c'est défendu ? En fait, c'est toujours cette escalade technologique de mettre plus de caméras, des meilleures caméras. Et en fait, à la fin, les villes se retrouvent avec beaucoup trop de caméras et d'images. Et donc maintenant, la nouveauté, c'est de dire on va mettre de l'IA pour vous aider à regarder ce qu'il faut regarder. Et c'est là où ça commence à sentir pas bon, c'est que qu'est-ce qu'il faut regarder ? C'est l'idée qu'il faut trouver ce qui est suspect, ce qui est bizarre, pour avec toujours sur la croyance qu'on peut anticiper en fait des infractions ou qu'on peut deviner qu'il va se passer une situation, un illégalisme, etc. Et évidemment, un comportement suspect, ça n'existe pas. Enfin, ça n'est pas objectif. Donc, concrètement, l'algorithme va être entraîné par des industries, ça a été dit, sur la demande de policiers, et c'est leur vision, en fait, qui va être gravée dans le marbre du code de l'algorithme. Et donc, un comportement suspect, ça, c'est pour ce qui est regardé en temps réel. Ce qu'on a pu documenter à la Quadrature du Net, en fait, c'est des choses très, très banales. C'est le fait de rester statique. C'est un groupe qui se forme. Ça peut être quelqu'un qui est à terre. Et donc, nous, dans les critiques qu'on a très vite formulées, c'est que cet outil, donc déjà qu'il y a l'outil caméra qui est dangereux, et ça a été dit, et on en reparlera, mais donc il y a l'outil caméra qui est problématique en soi. Et là, en fait, c'est une sorte de passage à l'échelle avec ces algorithmes, de cette surveillance, de ce contrôle social, en fait, parce que ça généralise des normes sociales qui vont être mises dans l'algorithme, une alerte qui va sonner quand un groupe va se former, une espèce de, on va dire, de normalisation de l'espace public qui va être policé, où en fait, concrètement, il y a une alerte qui pourrait être générée dès que quelqu'un juste ne fait pas que marcher d'un point A à un point B. Donc voilà, nous, on a très vite dénoncé ça. Et en fait, surtout, ça va viser des personnes, pas n'importe qui, les personnes qui passent du temps dans l'espace public. Donc des personnes qui y vivent, des personnes qui traînent parce qu'ils peuvent pas être ailleurs. Puis dans l'espace public, c'est un endroit où on exerce nos libertés, c'est un espace politique. Et en plus, à nouveau, c'est un outil qui est à destination de la police, qui est quand même une institution qui est dans un certain rapport de force et qui est connue pour être violente, pour discriminer. Donc, et c'est un outil qui concrètement, technologiquement, peut discriminer. On peut décider, ah, je préfère voir telle personne que telle personne sur l'écran. Donc voilà, ça c'est évidemment bah, l'autre risque qu'on voit avec cet outil, c'est une arme de plus dans l'arsenal de la police pour harceler, réprimer toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes quartiers, voilà.
Peut-être on peut revenir sur le mot de brief cam, parce que donc on entend parler de brief cam qui équipe les caméras. Donc peut-être c'est une question peut-être un peu technique, technologique, mais c'est important, ça joue. Val, donc toi à Technopolis Paris Banlieue, vous vous intéressez à ces questions techniques. Tu peux nous expliquer l'algorithme, la société, le logiciel.
Oui, tout à fait. Donc brief cam, c'est une entreprise. Fondée en 2008 sur la base des travaux d'un chercheur à une université de Jérusalem. Et c'est parti de... En fait, c'est la construction d'une suite logicielle qui va agréger ou améliorer plein d'algorithmes et de logiciels existants de reconnaissance, comme l'a expliqué Noémie, de comportement, en fait, de choses sur une caméra. En fait, il y a des mathématiques appliquées et des traitements de ce type-là qui servent à faire plein de petites briques, donc reconnaître un bonnet, reconnaître une personne, reconnaître une voiture, etc. Et le boulot de BriefCam, c'est d'agréger tout un tas de mécanismes de ce genre dans une grande suite logicielle qui donne à la disposition de celui qui s'en sert tout un tas d'outils de surveillance et d'automatisation. En particulier, un de leurs gros apports, c'est de faire ce genre de choses sur des flux multicaméras avec énormément de contenu. Leur gamme de maintenant, en gros, ils la décomposent un peu en trois types de logiciels. Il y a la partie qu'ils appellent review. Donc ça, c'est l'idée de dire, bon, j'ai le logiciel, il y a plein de caméras qui sont branchées dessus. Et en fait, je vais pouvoir, là, sur un laps de temps un peu court, lui dire, OK, trouve-moi dans toutes les caméras la personne qui porte... un pull rouge et des baskets blanches. Voilà, retrace-la-moi, ressors-moi les images où elles se trouvent. D'ailleurs, là, je dis basket rouge, pull blanc, mais ça peut être de la reconnaissance faciale, littéralement. C'est-à-dire, on peut y mettre le visage, plusieurs images du visage de quelqu'un, et elle va le trouver dans les flux de caméra.
Et du coup, la reconnaissance faciale, elle est appliquée ou pas?
Ben, alors, on va en parler. Et donc, le logiciel en soi. Et distribué, vendu tel quel. Enfin, cette technologie, elle existe dans le logiciel. Mais je reviens à ça juste dans une seconde, parce que du coup, ces mêmes technologies peuvent être aussi appliquées à de la détection automatique. Donc tu lui dis, je veux repérer tel comportement. Donc là, on va être un peu dans ce qu'a décrit Noémie, qui va être un peu l'usage plus légal de lui programmer des comportements qu'il va faire. Et après, il y a la partie research qui est faire de l'analyse de grandes masses de données. Donc là, on est plus sur analyse de foule et des choses comme ça. Mais donc, c'est là où on revient à ta question de tout à l'heure. C'est qu'au final, mettre BriefCam sur un ordinateur et te dire, alors la loi, la législation autorise telle et telle surveillance et la surveillance de tel et tel comportement, en fait, ça revient à te donner la suite Microsoft Office ou LibreOffice et te dire, attention, tu ne peux écrire qu'en italique et qu'en taille 14. Voilà. Surtout, ne clique pas sur le bouton mettre en gras. Voilà. Et BriefCam a été acquis par la police bien avant le fait qu'il y ait une base légale. Et des articles ont montré que même la reconnaissance faciale...
En fait, c'était Disclose en 2023 qui avait révélé qu'il y avait 8 ans, depuis 8 ans, il y avait cette option qui était plus ou moins activée, on ne savait pas trop, de façon complètement opaque, de caméras installées en France. Quoi.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la police avait acquis... Ouais, c'était à partir de 2015, donc il y avait des policiers qui avaient acquis ce logiciel. Et en fait, oui, l'option y est. Donc en fait, ils s'en sont servis parce que c'était dans l'interface. Et voilà. Pour l'acquisition, pour dire deux mots sur l'acquisition de BriefCam, en fait, souvent ça vient avec les logiciels de VMS, donc les logiciels de centralisation des flux qui viennent pour les centres de supervision. Et en fait, on peut aussi l'acquérir via l'UGAP, qui est un peu la centrale d'achat des acteurs publics.
Et est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé pour les JO, puisqu'il y a eu une loi à ce moment-là pour dire, ah bah il y a les JO, donc il faut faire de la VSA. Et puis ensuite, ça a été prolongé. On en est où ?
Alors, pour les JO, effectivement, donc, quand même, Val vient de le dire, ces technologies, elles ont été achetées, on ne sait pas trop comment, par des villes. Donc, il y avait un peu un état de fait que ces technologies étaient utilisées de manière illégale. Et là, le gouvernement, sous pression des industriels, sous pression des villes, a dit « Ok, on fait une loi ». Et a utilisé l'événement des JO 2024 de Paris. Je précise parce que ceux de 2030 vont aussi faire parler d'eux. Mais du coup, à l'occasion des JO 2024, de dire « Ah, ben, on va expérimenter pour une fois légalement cette technologie qui servirait à prévenir les atteintes à la sécurité, blablabla ». Évidemment, c'était pas tellement ça le sujet, plutôt que de permettre des marchés publics et à certaines entreprises de se déployer. Et donc, il y a eu une loi en 2023. Et il faut comprendre que ça allait bien au-delà des JO. En fait, ça a permis des expérimentations pendant un an pour tout événement récréatif, sportif et culturel. Donc, il y a eu les concerts de Taylor Swift, la fête de la musique, énormément de matchs de foot, où ces technologies étaient testées pour une liste de 8 situations. Alors, je ne les ai plus en tête, mais il y avait donc le fait d'être à terre, enfin après une chute, il y avait densité trop importante de personnes, voilà, on ne sait pas ce que c'est, le fait de marcher à contresens. Donc ça a été déployé. Il y a eu un rapport à la fin qui a dit que ça ne marchait pas vraiment, mais ça, voilà, on s'en doutait. Mais donc là, l'expérimentation est terminée depuis mars. Mais évidemment, ils ne veulent pas s'arrêter là. C'était une excuse, les JO, parce que ça fait longtemps qu'on... Enfin, l'agenda politique... de vouloir pérenniser cette technologie, ça fait longtemps qu'on le voit. Et donc là, ils essayent tout pour que ça continue. Ils ont fait une tentative dans une loi dans les transports, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc là, ils réessayent les JO 2030 qui auront lieu dans les Alpes. Et alors là, c'est la blague. C'est la loi, elle est discutée en ce moment. Ils veulent que l'expérimentation dure jusqu'en 2027, mais pour des JO 2030. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce n'est pas vraiment ça qu'ils cherchent. Donc ça risque de revenir très bientôt.
Et des parpaings, une émission qui scrute les luttes sans caméra sur Radio U 101.1 et ailleurs sur d'autres radios associatives.
Bonjour, alors est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ?
Moi c'est Artiste et je suis membre du collectif Artiste Peintre.
Et moi c'est Peintre.
Eh bien, enchanté. Donc vous êtes là aujourd'hui pour nous partager une technique toute particulière dont vous avez fait usage à plusieurs reprises sur la caméra de la place. Pourriez-vous nous parler un peu de la technique utilisée, du matériel nécessaire pour ces opérations ninja que vous avez donc réalisées ?
Nous sommes allés sur la place Guérin, tout de blanc vêtu, de la tête aux pieds, les pieds compris, avec une combinaison de peintre, quoi, pour être totalement anonyme. Et nous nous sommes équipés d'une grande perche télescopique et d'un rouleau de peinture de manière à repeindre la caméra de la place Guérin. Autour des 23h, histoire d'y être quand les bars étaient encore pleins et où il y a peu de chances de croiser la police, c'est que si jamais elle était présente, nous avions l'espoir que la population locale fasse diversion pour nous protéger.
En fait, l'idée générale, c'était de s'opposer à une caméra et à ce qui se fait de mieux en termes de détection, d'identification, et un peu de se montrer aussi à nous-mêmes qu'on pouvait s'opposer à ce genre de choses, quand même qui sont des trucs qui sont faits pour nous identifier, sans se faire identifier justement. Du coup, voilà, la technique qu'on a trouvée, c'est un peu inspirée des soulèvements de la Terre. C'est le fait d'utiliser une combinaison de peintre, de se recouvrir les pieds, d'avoir des gants, un masque, des lunettes, ce qui permet en fait de ne pas être visible ou identifiable ni par la caméra, ni par les gens qui pouvaient être présents autour. Et ça a assez bien marché parce qu'a priori, on n'a pas été reconnu par qui que ce soit.
Et vous pouvez nous raconter donc la réaction des gens ?
La première fois, quand on passe à côté du bar, les gens sont en mode enterrement de vie de garçon, c'est drôle. Et juste à peine on a commencé à arriver sur la place, tout le monde est en mode la caméra, la caméra. La caméra vient tout juste d'être installée et on était en train d'avancer. Les gens nous avaient pas encore aperçu que les gens étaient déjà en train de pester sur la caméra, quoi. Donc une fois qu'on arrive au niveau de la caméra, tout le monde est en train de nous encourager. C'est un moment très jouissif, en fait, de sentir toute la population qui est derrière nous, qui est en accord avec nous. On sent que les habitants et les usagers de la place Guérin sont vraiment contre cette caméra, cet œil de Sauron qui nous observe en permanence.
Et vous aviez réfléchi justement au pourquoi de la peinture, au rapport bénéfice-risque ?
Alors ça, c'est important, parce qu'on avait quand même dans l'idée de ne pas se faire gauler, mais on avait aussi en tête que c'était possible. Donc du coup, il s'agissait de s'organiser un peu en amont pour, on va dire, préparer notre défense. Et il se trouve que cette caméra, elle a un revêtement qui est censé être anti-peinture. Du coup, si tu la peins, tu l'abîmes pas. Donc on s'est contenté de la neutraliser, mais pas de la mettre en panne. Et en fait, on avait dans l'idée de ne pas partir sur un désamorçage définitif, même si ça avait été envisagé auparavant, quoi. Bon, voilà, ce qui paraît, il y a d'autres collectifs qui ont tenté de les mettre hors service en coupant les câbles. Donc voilà, soutien et big up aux camarades du BTP. Mais nous, on est un collectif d'artistes peintres, donc on ne fait pas dans l'électricité.
Comment vous aviez anticipé la VSA qui existe au sein même de la caméra ?
L'idée, c'était de prendre des tenues larges, très larges, pour que notre silhouette réelle ne soit pas identifiable. C'est surtout ça qu'on a fait là-dessus. Avoir des combinaisons de peintres avec capuche, masque, lunettes, on était bien couverts.
Et surtout, bien cacher les chaussures. Ça, c'est quelque chose de facilement identifiable et qui se retrouve dans une perquise. Donc, les chaussures, c'est dans un sac poubelle avec un petit bout de scotch. C'est pas très élégant dans la rue, mais ça disparaît très bien une fois sorti du champ de la caméra. Et la première poubelle venue, ça fait une bonne poubelle. Donc voilà, ça se trie.
Et vous avez réalisé donc trois fois cet atelier peinture avant de réaliser un petit tutoriel papier que vous avez distribué dans les boîtes aux lettres du quartier. Parce que j'ai eu la chance d'en recevoir une dans ma boîte aux lettres, justement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le pourquoi du comment ?
Alors, on ne l'a pas distribué dans les boîtes aux lettres. En fait, on a laissé des piles de tracts dans différents endroits, à gauche, à droite. Et je pense qu'il y a des gens qui les ont mis dans les boîtes aux lettres. Mais c'est carrément pas nous. Là-dessus, on se dédouane. On est innocents.
Ah oui, donc c'est complètement un projet collaboratif. Donc, c'est tout de même vous qui l'avez réalisé, le tract. Donc, pourquoi ?
On se disait que ce que nous faisions était très bien, mais il fallait que l'ensemble de la population et des usagers de Guérin aient à s'emparer de cette action, de ce mode opératoire aussi. Et peut-être aussi que ce mode d'action puisse atteindre d'autres gens, puisque nous ne sommes pas les seuls à avoir une caméra au-dessus de notre tête, et que peut-être d'autres personnes s'en emparent et réagissent dans leur quartier pour lutter contre leur œil de Sauron à eux, quoi.
D'accord. Un petit mot pour la fin ?
Vive l'art et la liberté !
On est très content qu'il y ait des collectifs et des gens du quartier qui montent quelque chose autour de la caméra. Et du coup, on espère que c'est un débat qui fleurira. Et puis, on espère pouvoir s'en débarrasser de toutes ces caméras.
Eh bien, merci. Merci pour votre travail.
l'interview qu'on vient d'écouter a été rejouée par des comédiens et comédiennes pour préserver l'anonymat des artistes peintres.
Ok, on va continuer avec toi, Élie, si tu veux bien. Cet après-midi est cousu à plusieurs mains avec cette émission, mais aussi, on l'a vu, avec une exposition, un atelier pour enfants, des gâteaux, un film et à la suite un reportage. Le tout malgré le foie et les heures de discussion passées pour organiser cet événement. Est-ce que vous imaginez une suite ?
Ouais, bah alors nous, on est comme je le disais tout à l'heure, on est un petit groupe et du coup, on a déjà mis pas mal d'énergie là dans l'organisation de cet événement qu'on n'a pas organisé tout seul. Hein. Bien sûr, il y avait du pain et des parpaings, les amis de la place Guérin, mais aussi la LDH qui a contribué à l'organisation. Et du coup, nous, on a toujours envie de poursuivre en proposant d'autres choses. On a pensé notamment à faire du collage d'affiches Technopolis, des cartes aux parties. On aimerait bien aussi faire un grand jeu de pistes à travers la ville pour essayer de retrouver les fameux 15 sites et on se dit que ça pourrait être un truc un peu fun. Des ateliers maquillage, etc. Et on aimerait bien organiser d'autres événements, alors peut-être dans un format un peu différent, autour de projections débats ou des choses comme ça. Et soit à notre initiative, soit à l'invitation d'autres organisations. Là, on a une proposition du festival antifasciste, antiraciste Brest ouverte et solidaire qui aura lieu en janvier. Et du coup, on va s'associer à ce genre de choses et on est plutôt ouverte à ce que ça se fasse, quoi. Et après, dans l'absolu, on aimerait bien qu'il y ait un groupe Technopolis Brest, hein, ça serait top. Mais du coup, pour le moment, on est un peu limité par le fait qu'on est trois. Et s'il y a possibilité que le groupe se renforce, c'est d'autant mieux. On va quand même s'organiser pour aller au week-end intergroupe Technopolis qui aura lieu en janvier à Paris. Et où il y aura plein de questions qui seront discutées, plein d'ateliers et tout, ça va être top. En fait, le fait d'être en lien avec d'autres collectifs Technopolis, c'est sûr que ça donne plein d'idées, plein d'envie. Après, faut avoir du temps et de l'énergie pour le faire, quoi. Et puis, surtout, ce qui était important de dire aussi, c'est que pour nous, la question de la vidéosurveillance ou de la VSA, c'est avant tout une porte d'entrée pour parler plus largement des logiques sécuritaires et répressives qui se généralisent et aussi d'une forme d'accoutumance, d'acceptation. Et nous, ça nous paraît logique de nous mobiliser en contre-feu, dans le cadre de la campagne municipale, en proposant des événements qui sortent un peu des clous de ce qu'on nous vend, quoi. Mais c'est surtout une autre manière de d'habiter la ville et de défendre autre chose, en fait. Voilà.
Pierre, du côté de la LDH, malgré les alertes dans la presse papier et à la télé locale, sans compter la mise en demeure de la CNIL dont on a parlé, les caméras sont toujours là et on n'a pas eu vent que le logiciel soit retiré du système de vidéosurveillance brestois. Est-ce que la LDH, vous allez continuer à suivre le sujet ou à vous opposer à la vidéosurveillance ?
Oui, bien sûr. Deux points sur lesquels je pourrais revenir, c'est premièrement l'inefficacité de la vidéosurveillance. Il y a quand même un certain nombre de rapports de la Cour des comptes 2020 qui s'interrogent sur le coût par rapport à l'efficacité. Il y a des rapports qui ont été demandés par la gendarmerie du côté de Grenoble, avec une étude extrêmement bien faite d'un point de vue méthodologique en comparant des villes qui étaient équipées et des villes qui n'étaient pas équipées de vidéosurveillance, on ne voit aucune différence en termes de délinquance, entre guillemets. On sait très bien qu'en plus, la délinquance de type, par exemple, meurtre, 50% des meurtres, ils sont commis dans des espaces privés. C'est à l'intérieur des habitations, c'est pas sur la voie publique. À part peut-être la police quand ils essayent de bloquer quelqu'un qui refuse d'obtempérer. En général, c'est pas sur la voie publique. Alors ça peut arriver. Il y en a eu un apparemment à Brest cette nuit. En général, de toute façon, la délinquance, en termes de prévention, alors ce qui est à la mode, c'est narcotrafic, qui est un terme que j'aime pas beaucoup. Mais en termes de vente de produits illicites, de stupéfiants illicites, bien évidemment, ça n'a aucune efficacité parce que personne n'est assez débile pour faire du commerce, de la vente de produits illicites en dessous les caméras. Donc, quand on regarde les élucidations apportées par la vidéosurveillance, c'est dérisoire.
On entendait Nunez au tout début de l'émission, là, il répétait 30%, 30% comme ça, parce qu'il se faisait contredire par quelqu'un, du coup il le répétait, donc, comme si c'était un...
Oui, alors que c'est absolument faux, on est entre 2 et 9% à tout casser, des affaires qui sont résolues. On sait que sur les cambriolages par exemple, c'est dérisoire l'apport de la vidéosurveillance, c'est au maximum 10% des affaires résolues, en sachant que 90% des affaires ne sont pas résolues. Donc c'est 10% des 10% qui restent. Le deuxième point, c'est sur la question de l'opacité. Enfin, pour nous, c'est un enjeu effectivement démocratique, c'est-à-dire que on voit bien que si vous allez voir sur le panneau, parce que systématiquement, quand il y a des caméras, il doit y avoir une affiche à côté pour savoir à qui il faut s'adresser. Là, c'est toujours le sous-préfet qui est marqué sur à côté de la caméra de la place Guérin. Or, c'est plus le sous-préfet à qui il faut s'adresser, mais normalement à la mairie. Donc, ça n'a pas été changé depuis le mois de juillet, début août. On voit aussi que quand on s'adresse aux autorités, en fait, on n'a aucune réponse. Que ce soit sur qui regarde les images, quand les images sont regardées, est-ce qu'elles sont regardées en continu, pas en continu, comment elles sont saisies, où elles sont implantées, etc., etc. Donc, pour nous, le travail au niveau démocratique, déjà, c'est de lutter contre cette opacité autour des caméras. Je pense qu'effectivement, l'idée de faire une cartographie déjà des caméras brestoises et savoir où est-ce qu'elles sont implantées, etc., est extrêmement intéressant.
Il y en a 91, c'est ça ?
Apparemment. Je ne sais pas. Oui, apparemment, mais... Je crois que dans l'article du Télégramme d'aujourd'hui, ils disent qu'il y en a d'autres qui doivent s'installer d'ici la fin de la période actuelle, quoi, ouais. De municipale.
Et l'un des candidats, justement, Stéphane Roudotte, candidat centre droit, propose d'installer 1000 caméras sur 300 points de vidéoprotection. Donc ça.
Oui, alors c'est ce qui est absolument aberrant, c'est-à-dire que l'on sait que de toute façon, c'est impossible de suivre 1000 caméras en même temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir 1000 écrans pour suivre 1000 caméras. Et c'est là que l'algorithme rentre en ligne de compte, parce qu'effectivement, c'est là la grosse crainte. Et on sait très bien qu'il y aura effectivement une stigmatisation d'un certain type de population sur la vidéosurveillance et le décryptage algorithmique. On a des inquiétudes aussi par rapport... Le conseil départemental veut installer des caméras au niveau des collèges. Donc là, c'est pareil, c'est le financement et en imputant au collège, si j'ai bien compris, l'entretien des caméras et la vision des caméras. Bon, par rapport à l'histoire de Jules Lesven, peut-être que le conseil régional risque de partir sur une même logique avec installer des caméras autour des lycées. Donc on est assez inquiet.
Il y avait déjà beaucoup d'argent pour l'éducation, donc.
Absolument, et pour rien, quoi. Enfin, pour une efficacité encore une fois qui est dérisoire. L'autre question pour nous, c'est la question la question de sécurité, c'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, qui a été repris quand même jusqu'à Emmanuel Valls, la sécurité est la première des libertés. La sécurité est la première des libertés, ce qui est une quand même un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que la sécurité, c'est pas simplement la sécurité publique, c'est pas simplement la sécurité dans la rue, mais c'est aussi les sécurités, pouvoir se loger, pouvoir s'habiller, pouvoir manger correctement, pouvoir avoir accès à l'éducation, pouvoir avoir accès à la santé. C'est-à-dire, ce sont les principales sécurités. La sécurité sur les voies publiques, les dangers sur la voie publique sont bien inférieurs aux autres sécurités.
Sous son képi, le flic tépit. Sur la place, la caméra tépit. Dupin et des Parpaings, une émission qui trouve que ça pue des pieds.
Alors, une question pour Noémie. Est-ce que tu voudrais bien nous parler du travail que vous faites à la Quadrature du Net pour alerter, informer et lutter contre la VSA et même déjà pour faire apparaître le sujet dans le débat public ?
Ouais, alors ça a commencé par ça, par faire apparaître le sujet quand on a découvert cette technologie il y a pas mal d'années maintenant, c'était vers 2019-2020. Et où bah, il a fallu la décortiquer, comprendre comment ça fonctionnait, et ça a été dit tout à l'heure aussi, on l'a renommée parce qu'à l'époque c'était vidéoprotection intelligente ou vidéoprotection augmentée, et on s'est dit non, c'est de la surveillance, c'est de l'algorithmie. Donc voilà, déjà il y a ça, et donc c'est passé par récupérer de l'information, récupérer des marchés publics, le diffuser, donc c'est comme ça aussi qu'est née la campagne Technopolis. Et après, nous, de notre côté, avec toutes ces informations-là, avec toute cette doctrine qu'on était en train de créer, construire, ce qu'on fait à la Quadrature du Net, plutôt, c'est agir sur les institutions. Donc les lois dont je parlais à ce moment-là, bah, essayer de donner des arguments d'opposition, de faire naître le sujet aussi dans l'espace médiatique à ce moment-là. J'allais dire de faire en sorte que la loi passe pas, mais malheureusement, quand même, depuis un paquet d'années, tout passe avec les équilibres parlementaires et l'extrême droitisation du Parlement. Mais voilà, et on essaye d'agir, donc de faire aussi des actions, ça a été dit, des actions en justice contre certains projets. Et voilà, et ça permet de faire exister ça médiatiquement, aussi d'aller créer un peu un rapport de force auprès des institutions, parce que même si ça passe, on leur fait perdre du temps, on augmente le coût politique, en fait, ça ne passe pas aussi facilement, et en fait, au fond, on les embête. Et on a compris que, ouais, avec le fait que la loi JO 2024, il y ait eu que 8 situations à repérer, parce qu'il fallait faire attention aux associations de liberté, blablabla. Bon, ils s'en foutent là sur ce qui arrive après, mais ça a quand même bien fait chier l'industrie qui voulait avoir plus large. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on fait, et évidemment, bah, les luttes locales comme celle ici à Brest, elles sont hyper précieuses pour nourrir ce combat au niveau national, pour avoir plein d'informations. Et nous, ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle, c'est aussi d'essayer d'outiller les luttes locales. Donc c'est un peu donnant-donnant, avec les éléments juridiques qu'on connaît, des éléments de doctrine. Donc on arrive avec des brochures, des affiches. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait sur ce sujet.
Val, d'après ce qu'on a compris, Technopolis, ce sont plusieurs collectifs en France. Est-ce que tu peux revenir sur ce que vous faites dans ces collectifs ?
Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est le collectif Technopolis, c'est tout à fait le prolongement de ce que vient de dire Noémie sur l'outillage des luttes locales. En fait, donc c'est la Quadrature qui est partie de ce constat, de cette envie d'avoir des personnes qui localement s'emparent de ces sujets et donc de leur proposer une plateforme. Et donc cette plateforme, ça a été la campagne Technopolis, avec donc de l'information, des visuels, de la formation, etc., etc. Et ça a un peu pris, surtout petit à petit, là, dans pas mal de villes, ça commence à s'organiser. Donc moi, je parle au nom de Technopolis Paris banlieue, là. Et en fait, c'est des collectifs qui ont un peu l'ambition de traduire dans le militantisme, dans le mouvement social, les enjeux que va apporter la Quadrature ou la LDH, par exemple. Donc d'ajouter une touche qui potentiellement n'était pas encore là. Donc en fait, ce que font souvent les collectifs Technopolis, c'est très varié. Et moi, j'aime bien dire que c'est un peu remplir les trous et créer des ponts, quoi. Donc que ça soit entre différents collectifs qui s'intéressaient à leur manière à ces sujets, et donc de faire les ponts, de relier les personnes, de conseiller, de recommander, de faire un peu le passe-plat sur certaines choses, et aussi de remplir des choses qui n'étaient pas forcément faites. Et donc ça peut être très varié. À Montpellier, ils font même des actions en justice, mais souvent les groupes Technopolis, ça va être des réunions publiques, des collages, des activités de sensibilisation. Et oui, sans doute, celle, si on peut développer sur un type d'action qui réunit un peu les choses dont on a parlé et qui est un peu commun à beaucoup de collectifs Technopolis, c'est de faire des cartes aux parties. Donc, en fait, c'est de prendre un petit groupe de personnes et de se promener dans une zone où les caméras n'ont pas encore été cartographiées. Alors, cartographier, pour ça, on utilise OpenStreetMap, qui est une alternative libre à Google Maps, qui fonctionne un peu comme Wikipédia, en fait, qui d'ailleurs est super, utilisez-la pour vos trajets quotidiens. Et cette base de données permet aussi de rentrer des caméras, donc il y a des moyens de le faire. Donc on prend un petit groupe, on se promène dans une zone, on apprend à soit repérer sur papier, puis faire sur l'ordi, soit directement avec le téléphone à rentrer les emplacements des caméras. Et en fait, le fait de rentrer les caméras, c'est intéressant parce que ça documente la surveillance, ça laisse une trace. Mais je trouve que ce qui est presque plus cool et important, c'est le moment où, avec des personnes de tout niveau d'intérêt pour le sujet, en fait, on se promène dans un lieu où souvent on réside ou pas loin, on discute de notre rapport à la surveillance, on identifie les caméras et on apprend à y faire attention. Donc ouais, c'est un genre d'action que je trouve plutôt cool là-dessus. Et ouais.
En un sens, ça permet de dénormaliser un peu justement ces caméras et de les sortir un peu du quotidien. Parce qu'au final, on finit par plus les voir et à vivre avec.
Oui, c'est tout à fait ça. Mais je le sens même sur moi-même. En fait, tu fais une carte au parti, pendant 2 semaines, tu les vois toutes et puis tu diminues. Quoi. Donc de temps en temps, c'est bien de se faire des... Ouais, exactement.
Peut-être il y a des questions dans le public ou des réflexions, des commentaires sur la situation à Brest. Je ne sais pas, les caméras, est-ce que dans votre quartier il y en a ? Est-ce que vous avez déjà fait une carte au parti personnelle ?
Ouais. Merci. C'est juste une question. C'est par rapport à ce que tu dis. C'est est-ce que le risque, ce n'est pas de faire comme si on ne les voyait plus ? Mais ma question, c'est plutôt est-ce que le risque, ce n'est pas justement de les intégrer dans nos comportements ? Et de implicitement en fait imprégner le contrôle arbitraire de la police dans notre propre organisme et de en fait d'agir comme ils veulent qu'on agisse quoi.
En les repérant, tu veux dire ? J'ai pas compris moi. Ah, en général. Ouais. Pardon.
Bah, j'ai l'impression que, justement, par tout ce qui a été dit, en les repérant, en faisant des moments comme celui-ci, ça va à l'encontre de cette dynamique qui, effectivement, existe. La plupart des gens les repèrent pas ou alors intègrent que, en fait, ah, bah, il y a une caméra, faut faire attention. Et je pense que c'est vrai que la dynamique aujourd'hui est pas dans notre sens. Enfin, la caméra a été vachement banalisée et c'est par ces moments-là de réflexion, visibiliser les caméras par des parties où la dernière fois on a collé des trucs sur les poteaux, enfin, de les refaire exister, ça permet de contrer un peu ce processus-là, je trouve.
Enfin, il en existe dans combien de villes, du coup, des technopolis, des collectifs, vous êtes présents ?
Alors c'est un peu difficile parfois à quantifier, par exemple, est-ce qu'on peut parler déjà de Technopolis Brest ou pas machin, mais alors là de mémoire, alors ça va être un peu dur, Noémie va m'aider, on va avoir alors donc il y a Paris, Marseille, Montpellier, Bruxelles, Lyon, Saint-Étienne, il y a des gens à Foix,
Arles-Avignon, voilà. Et par exemple Foix, c'est pas Technopolis mais c'est des gens qui nous avaient contactés parce que c'est un autre phénomène des petites villes où il y a, parce que Foix c'est genre 10 000 habitants, ou des petites villes où des caméras s'implantent et il y avait un collectif d'habitantes habitants qui s'était opposé. Voilà.
Non, bah ouais, en fait ce que j'aurais pu dire rapidement, c'est que dans les personnes qui écoutent ce qu'on enregistre là, il y a des gens intéressés par soit la plateforme, soit vraiment créer un groupe Technopolis. Donc le site technopolis.fr existe pour renseigner ça. Et surtout, n'hésitez pas à contacter la Quadrature ou via les réseaux, les collectifs Technopolis, par exemple Technopolis Paris Banlieue, vous pouvez nous trouver, ou les collectifs proches de chez vous. C'est vraiment l'idée de partager les connaissances, de s'organiser tous ensemble. C'est tout à fait l'idée.
Oui, moi, ça me faisait repenser à Putain-Jeulac, où il y a quand même eu un collectif d'habitants qui a réussi à pointer le fait que dans leur commission départementale de vidéoprotection, qui est donc l'instance qui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais donne les autorisations de mise en place des systèmes de vidéosurveillance, la personne qui a eu après le contrat siégeait dans cette commission-là la semaine d'avant et donc siège en tant qu'expert dans la commission qui attribue l'autorisation du contrat qu'il a eu après pour installer les caméras. Enfin, c'est quand même voilà, donc il y a quand même un truc et ça, bah, c'est un collectif d'habitants qui l'a révélé et qui a permis de bloquer un peu le truc, quoi.
La commission départementale, c'est complètement opaque. Hein. Je parlais de l'opacité tout à l'heure, c'est-à-dire que donc il y a un magistrat, un maire, un représentant de la CCI et une personne déléguée par le préfet, et on ne sait pas qui c'est. C'est-à-dire que d'habitude, dans les commissions, si on va voir sur le site de la préfecture, normalement, les personnes qui sont désignées pour telle ou telle commission sont nominatives. Là, on ne sait pas qui c'est. Les décisions par rapport à la vidéosurveillance dans les magasins, etc., celles-là, elles sont en ligne, mais les décisions de la commission départementale sur la voie publique, les décisions, enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé en ligne. Donc, c'est extrêmement compliqué. On voit bien qu'on est vraiment dans un système d'opacité. Et là, pour nous, ce qui est important, c'est encore une fois, au niveau que l'information puisse être diffusée et puisse être déjà demandée, qu'on ait des réponses sur les questions que l'on se pose et que ces réponses puissent être fassent partie du débat démocratique.
Si, ouais, et effectivement, on n'a pas accès au nom des personnes qui y siègent, etc. Mais on a quand même accès par les arrêtés préfectoraux aux accords qui sont donnés pour l'implantation de certains types de dispositifs. Et ce qu'on peut voir et qui rejoint le fait qu'il y a un marché économique derrière, c'est qu'on est sur une forte augmentation des attributions. Et donc, ouais, il y a une explosion du truc, quoi.
Ok, donc l'émission se termine. Pendant l'heure, on a entendu Ah pourquoi caméra de The Show Must Go On, Technoflic de Poésie Zéro, un grand classique, et Freak Show de Pressure Drop, ainsi que PD on C de Pressure Drop également. On vous conseille, entre autres, il y a plein de lectures possibles, mais un livre qui est paru aux éditions Terre de Feu de Martin Drago de la Quadrature du Net qui s'appelle Caméra sous surveillance.
Et on finit l'émission avec quelques actus. Est-ce que vous avez des choses à partager ?
Bah nous, peut-être tout simplement notre adresse mail si jamais vous cherchez à nous contacter. Mais du coup, c'est habiter et lutter à Brest @systemly.org.
À vous contacter ou à vous rejoindre.
Ou à nous rejoindre. Et je pense qu'on mettra le lien en bas de l'émission, comme ça sera peut-être plus facile.
Et bah, tout pareil pour Technopolis Paris Banlieue. Vous pouvez nous trouver en cherchant Technopolis Paris Banlieue. On est sur Instagram et sur le fait divers, sur Mastodon par exemple.
Et dans les actus côté quadrature, j'en ai parlé pour celles et ceux que ça intéresse, donc la fameuse loi sur les Jeux Olympiques 2030 qui veut à nouveau prolonger l'expérimentation de vidéosurveillance algorithmique est passée au Sénat et arrive normalement à l'Assemblée nationale là, la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ça passe aussi comme ça, la lutte, c'est de visibiliser ce sujet qui est trop invisibilisé. Et si vous juste vous adorez les débats parlementaires, ben voilà, c'est la semaine prochaine.
Pour la LDH, c'est une association qui est extrêmement large, donc je ne vais pas vous raconter toutes les actualités. La question pour nous, c'est sur les mineurs isolés, les MNA qui peuvent plus jouer au foot dans les compétitions officielles de la part de la Fédération française. Donc c'est notre prochain combat la semaine prochaine. Mais sur la question de la vidéosurveillance, bien évidemment, on va continuer à travailler, et en particulier pour avoir des réponses. Même si c'est pas facile, même si c'est pas à pas, même s'il faut faire des interviews ou des conférences de presse, on continuera à se bagarrer pour lever l'opacité sur les dispositifs.
Eh ben, merci à tous. Et pour info aussi, on enregistre cette émission le 29 novembre et le 15 décembre au tribunal de Lorient seront jugés les 12 inculpés de Bretagne contre les fermes-usines qui ont contribué au bon fonctionnement d'une action qui consistait à arrêter un train destiné à livrer de l'alimentation pour des élevages hors sol. Donc déjà, force à eux et à elles. Et si vous êtes disponibles, allez-y, ils ont besoin de soutien. C'est important qu'il y ait du monde 15 décembre à Lorient.
Ici à Brest.
On reste ensemble pour continuer à discuter hors micro, essayer de mieux comprendre ces dispositifs et ce qu'ils cachent, avant de poursuivre avec une projection. Merci à toutes et tous d'être venus sur le plateau et dans le public. À bientôt.
Salut.
Salut tout le monde. Merci.